Tard de quoi?
Donne
10 minutes.
c'est que dalle.
C'est pas méchant. Ça, c'est la
Sauf
page
si
des
vous aviez
choses,
d'autres
vous
trucs à dire dans l'émission.
Si les potes choses avaient pas fait d'intro, c'était largement.
Mais c'est ça en fait, c'est de leur faute.
En plus, ça servait à rien, c'est
ouais. En plus, on nous a même pas présenté, on nous a pas dit à quel point on était beau.
Bon, allez, on a quand même un truc à vous annoncer.
On
n'arrive
pas à le voir parce que votre webcam est trop.
Trop pourri, voilà. Ouais, mais au niveau son, on a trouvé toutes les solutions pour le reste de la soirée. Là, c'est bon, on est 100% opérationnel.
Est-ce que, bah, est-ce on que vous entend vachement bien. Il y a juste un tout petit bruit de masse, mais sinon, on vous entend super bien.
Par contre, question.
Eh bien, nous aussi, nous vous entendons et sans coupure.
Est-ce que vous avez mis la surface dans un congélateur faire, voilà.
Non seulement on a une bouteille d'eau fraîche pour la surface qui nous a lâché, on a aussi un téléphone en 4G en secours pour juste vos gueules.
Oh putain.
Donc on développe ici une inventivité technique qui est hors norme.
Pof, est-ce que tu pourrais nous diffuser le générique de MacGyver, s'il te plaît? C'est une connerie.
MacGyver.
Du coup, fermer la
J'aimerais revenir au fil rouge de l'émission, mais où est Damien sur la route actuellement?
Parce il paraît qu'il a trouvé un Indigo Wheel et qu'il arrive. Pardon, ça c'était le générique de MacGyver.
Tu en théorie, c'est l'heure de faire la popote, là.
Eh bien, ouais. Normalement, c'est l'heure pour vous de faire à manger.
Est-ce que je peux faire juste une spéciale dédicace?
On va passer le flambeau en cuisine, tout va bien?
Je fais juste une spéciale dédicace.
On va aller
spéciale dédicace
à
Oasis.
Équipe cuisine.
Ah, on est au milieu de l'ail, je crois.
L'équipe cuisine est prête et le chien est confirme.
C'est notre jingle chien, est-ce que vous l'entendez bien?
On l'entend très bien.
L'équipe est prête et le chien est bien.
Ah, ciao, c'est l'heure de la diagonale du bide.
Est-ce qu'il y a un générique?
Je sais pas.
La diagonale du bide,
quand on a faim, bah ça vient.
Très belle gousse d'ail, en tout cas.
La diagonale du bide. Ouais, c'est ça, en fait, on a choisi les aliments de saison.
J'en profite pour faire un gros bisou à Oasis qui a. Alors, par contre, vous êtes en train de nous faire un espèce de Larsen dégueulasse.
Qu'est-ce que vous
On a des grésillements et des Larsen.
Ça grésille, les gens.
C'est pas top top, hein.
Les gars, ça grésille.
Bah oui, mais en fait, vous grésillez, donc. Ah, bah là, cette fois, on les entend plus.
Ça va être tendu, hein, ce duplex. Hein. Donc, d'accord, Kof.
Mais c'est parce qu'en fait, ils ont décidé de mettre un duplex dans un duplex, donc.
Du coup, ça fait 4 étages.
Et regarde, tout le monde est parti boire des pastis, là. Oh, les gars, ça grésille.
Revenez. Attends, je leur envoie des messages avec alerte, alerte.
Alerte, ça grésille. Alerte, grésille.
alerte grésillement, alerte grésillement.
Ah, c'est parti.
Il y a plus de grésillement, mais il y a pas de son.
Il y a pas de son, il y a pas de grésillement.
Bah si, il y a re du grésillement. T'es sûr que c'est pas qu'ils sont en train de faire cuire des trucs?
Ça, elles font des frites apparemment vu l'audio, dit Kenton. Kenton, tu passes quand tu veux sur le. Mais oui, mais alors autant on vous entend, autant on entend un grésillement derrière, donc c'est pas cool.
Voilà la diagonale du.
Ah bah c'est bon.
Une émission improvisée culinaire qui va surtout parler du barbecue qu'on va faire ce soir. Parce qu'après tout, on est 15 à table, donc 15. On est très nombreux.
Oui, on était 18.
Ah, peut-être 18. Oui, on est 18. Donc on va faire un gros barbecue parce que c'est la saison et puis c'est festif. Donc à mes côtés. J'ai des complètement novices du podcast. Voilà. Stéphanie, Violaine, Mathilde, et puis cachée derrière, voilà, Loli, qui lui n'est pas un novice du podcast. Et donc, on va préparer ensemble le barbecue. On va vous raconter tout ce qu'on va manger ce soir et on va essayer de vous faire baver un petit peu avec tout ça.
Donner envie. Hein,
donner envie. Voilà, en tout cas, donner envie. Et donc, on a commencé. Alors là, ce que vous voyez, c'est des marinades. Au boulot, tout le monde. Chacun prend des.
Ça pique.
Allez. Alors, prends des piques à brochette. Là, on a donc le dinde qui est préparé un petit peu façon libanaise avec du citron, du sumac. Du cumin, des oignons, de l'huile d'olive. Donc, on va les mettre. Voilà, là, c'est le prototype. Hein. 6 morceaux, parce que je veux bien qu'on soit des gros mangeurs, mais quand même.
Largement suffisant.
Largement suffisant. Le porc, c'est avec du miel. du vinaigre, de l'ail, des oignons, du thym. Donc à la cuisson, ça va bien caraméliser. Voilà. Et le bœuf. Le bœuf, il est fait à l'asiatique. Donc avec du gingembre, de l'huile de sésame, sauce soja. Qu'est-ce qu'on a mis d'autre? Du vinaigre de riz. Voilà. Ouais. Et c'est tout, en fait. Mais donc, le principe d'une marinade... Allez, oui, oui. Le principe d'une marinade, en fait, c'est plus ça marine longtemps, meilleur c'est. Et donc, le, de base, il faut un corps gras et un corps acide. Le corps acide, ça va permettre de détruire un petit peu le collagène de la viande, donc l'attendrir, et de faire rentrer les saveurs qu'on a mis à l'intérieur. Donc des épices. Là, du coup, je suis un peu perdue, je dis du coup comme notre Azertov. Du coup, au niveau des épices, vous avez des préférences en termes d'épices? C'est quoi vos préférés?
Moi, je pense que là, ce que je vais préférer, c'est ce qui est libanais.
Libanais,
j'aime bien un peu frais. Ah ouais, voilà, la fraîcheur du citron, de la menthe. Voilà.
Alors, normalement, dans cette recette-là, je mets de la cannelle. Parce que moi, je suis une amoureuse de la cannelle. Mais je sais qu'ici.
Moi, j'ai une sainte horreur de la cannelle.
Il y a beaucoup de gens qui ont des problèmes avec la cannelle.
Moi, j'aime bien. C'est vrai que, pareil, mon homme, la cannelle, c'est pas
ça. Donc ouais. Là, je pense qu'on.
Là, on les a perdus complètement. A priori, on n'a plus de son. Je ne sais pas au niveau. On a l'image. Alors,
ouais, on a plus de son. Ouais.
Du coup, eh bien, on les voit mettre des, de la viande sur des pics. On voit une jolie technique.
Ah, moi, c'était le pain d'épices que ça m'évoque.
Aussi.
Oui, la cannelle. Enfin,
j'aime le pain d'épices. Mais la cannelle.
Après, tu peux faire du pain d'épices sans cannelle. Oui, avec des écorces de fruits et de la badiane.
Qu'est-ce que de la badiane?
Oui, mais la badiane, c'est l'anis étoilé.
Moi, j'ai tendance à avoir un peu ça. Je n'aime pas l'anis. Je n'aime pas la mer.
Ça peut être encore pire, la badiane, que la cannelle.
Je préfère encore la cannelle,
de,
peut-être.
De,
bah,
tu aimes
ou pas, peut-être pas. Mais la cannelle, c'est dû à une intoxication alimentaire aussi. Du coup, j'ai un petit peu de mal depuis... un restaurant indien plus que du thé. Donc, intoxication alimentaire de 3 jours, tranquillement. Voilà,
traumatisme.
Donc, c'est pour ça que j'aime beaucoup, par contre, tout ce qui est les saveurs libanaises.
C'est... Ouais, saveurs libanaises, c'est assez extraordinaire. Et alors, c'est vrai que les épices, il y a toutes ça. Alors, c'est assez incroyable, les épices, quand même, parce que, je ne sais pas si vous savez, au niveau étymologie, l'épice, ça veut dire c'est espèce. Ça vient, et quand ça vient de là, l'expression pays en espèce. C'est-à-dire que ça avait tellement de valeur que, d'ailleurs, c'est, en italien, l'apothicaire, celui qui vend, c'est le speziale. Donc ça vient de.
Mais en plus, il y a des épices qui sont encore très chères d'ailleurs, on pourrait quasiment marchander avec.
Et il y a plein d'épices.
Le safran. Le voilà, le safran, je cherchais le nom.
C'est une épice.
Et moi j'en ai un tout petit peu, et justement c'est tellement cher que je ne sais pas du tout, j'ose pas l'utiliser le safran.
Oui, mais ça se perd. Donc ici,
c'est ça.
Te dis que tu mets une fortune dans une épice que tu ne consommes jamais.
Voilà. Mais il faut trouver avec quoi.
Et alors ça, là on parle d'épices qui existent, enfin qui sont, depuis, qui sont connues dans la Bible. Il y a des textes bibliques qui parlent de la valeur des épices. Et par exemple, il y a une épice qui est très utilisée en Asie, qui est indissociable de la cuisine asiatique, mais ça fait 500 ans qu'on connaît. C'est le piment. Oui, parce que ça vient d'Amérique du Sud, ça a été découvert par les explorateurs en Amérique du Sud. Il n'y avait pas du tout de piment dans la cuisine asiatique il y a 500 ans.
Finalement, c'est assez...
C'est assez récent, mais c'est devenu indissociable de la cuisine asiatique. Et c'est là que... Loli va nous en parler un petit peu parce que t'es un grand spécialiste du piment.
C'est un accro du piment.
C'est un accro du piment, c'est un collectionneur de piments.
Et de sauce piquante.
Et de sauce piquante.
J'aimerais
bien. Non, c'est ça, c'est l'addiction en fait au piquant et à ce que ça va, enfin, à ce qui va avec, quoi. Donc concrètement, les piments, pour moi, c'est réellement une passion. Je fais ma propre sauce piquante, je fais mes pickles de piment. Je fais pousser des piments chez mes parents aussi, accessoirement.
Tu fais des hybrides où tu travailles l'intensité du piment?
Non, pour l'instant, on en est vraiment à faire du piment, pour faire du piment. Ensuite, concernant les sauces piquantes, bah, c'est vraiment des choses simples. Puisque pour faire une sauce piquante, il faut pas non plus des milliards d'ingrédients. Il faut du piment, du vinaigre, un sucre, qui soit du sucre ou des fruits, et un exhausteur de goût, donc un peu de sel, un peu d'ail, et puis
terminé rideau. Finalement, on trouve des choses de base d'une marinade.
C'est ouais. Ça, et après, et en suivant ce qu'on fait comme recette, on peut faire cuire cette sauce, ou on peut juste, la faire vieillir, on va dire, et qu'elle va...
Comme le vin, il y aurait une modification du goût.
Alors, certaines sauces, suivant les piments, suivant ce qu'on fait, il y a des sauces qui peuvent être fermentées. Le sriracha, par exemple, est un exemple pour moi parfait de la meilleure sauce piquante qui puisse exister, puisque très polyvalent et une sauce fermentée.
Voilà, le sriracha, c'est typiquement ce qu'on trouve dans les restaurants vietnamiens, thaï, chinois.
C'est ça. C'est l'indice. En fait, c'est la base de beaucoup de sauces piquantes asiatiques.
Et c'est délicieux. Et donc, ça t'est. Alors, si tu crains
pas, connais pas.
Non, j'avais goûté pur, donc.
Il faut, c'est très très bon. Et le sriracha est un mélange. En fait, c'est un mélange fermenté. En fait, le truc, ce qui est très drôle, c'est que le sriracha est une sauce qui est faite par un Thaï qui a émigré aux États-Unis. Et la plus grosse marque de sriracha qui existe, qui est Weifeng Food, est une marque californienne.
D'accord.
C'est lui qui l'a fait, c'est le Thaï en question. Et le sriracha, c'est un mélange donc de jalapeño rouge, d'ail, de sucre, de vinaigre, et le tout est fermenté. Et une fois que le tout a fermenté suffisamment longtemps, le tout est passé en gros en version blender. Et à ce moment-là, c'est comme ça qu'on obtient une sauce.
C'est comme
vraiment...
un peu des morceaux, un peu de...
Alors, ça dépend des recettes, mais souvent c'est très lisse. C'est une sauce qui est assez lisse, assez onctueuse.
Alors, je ne connais pas ta résistance au piment, parce que ça, c'est pareil. C'est...
Moi, je suis wasabi à la petite cuillère.
Oui, donc...
Alors, si tu supportes le wasabi, je pense que
tu peux
supporter ça. Oui,
parce que ce n'est pas très très fort non plus, je trouve.
Non.
Celui-là, en tout cas.
C'est vrai qu'en plus, il y a une tolérance au piment qui se fait.
Tu
consommes du piment.
Le piment, c'est le syndrome de Stockholm. Tu sais que ce n'est pas bon pour toi, mais tu en veux plus.
Tu portes comment, toi, le piment aussi?
C'est un petit goût sucré, en fait.
Tout à fait, il y a du sucre dedans. Le sucre fait partie de cette base des ingrédients. Piment, ail, sucre, vinaigre. Terminé rideau, on fait fermenter le tout. On mixe le tout pour en faire une onctueuse. Et puis... miracle de la vie, on obtient une des meilleures sauces piquantes qui puissent exister et qui est les plus polyvalentes. Il y a un Américain qui a même sorti 2 bouquins de cuisine sur le sriracha.
Oui.
C'est le mec, c'est un accro du sriracha et il a sorti le Sriracha Cookbook dans lequel on a du salé mais aussi du sucré. Parce que par exemple, il paraît, je n'ai jamais testé, que le sriracha en filet va très bien sur une boule de glace à la vanille.
Intéressant, parce que justement dans les desserts ça se fait drôlement. Le piment et le chocolat,
le
chocolat c'est utilisé aussi en cuisine salée d'ailleurs, comme dans des sauces
au Mexique.
Quand je fais mon chili con carne, il y a du chocolat dedans.
Dans le curry, dans le mince, comment ça s'appelle, le chili con carne.
Je mets du chocolat dedans, moi. Je mets des carrés de chocolat à 99% dedans.
Oui, mais c'est de la même chose.
Je mets de la bière aussi dedans.
Oui. Mais j'avais vu un documentaire justement sur le chocolat au Mexique où ils faisaient des préparations comme ça, où tu vas chez le chocolatier qui te mixe ton cacao avec les épices que tu demandes.
Et tu fais du mouillé.
Voilà, mais il n'y a pas de. Tu peux faire ajouter du sucre, mais là en l'occurrence, c'était pour une préparation, c'était piment cacao pur mixé ensemble et tu faisais une pâte avec pour préparer la.
Il n'y a absolument rien de comparable au mollet dans la cuisine, on va dire, française. C'est tellement un mélange de goût comme épice.
T'as déjà goûté, toi, ça?
J'ai déjà goûté du mollet. Alors, certainement pas du très bon, mais...
Ça donne un aperçu.
Dans, dans le rayon cuisine du monde du Auchan à côté de chez toi, de temps en temps, ils ont des produits mexicains différents. Et ils avaient, à une époque, un rack complet de mollet. Et j'en ai acheté un.
D'accord.
Pour voir ce que ça faisait. Et donc une grosse cuillère à soupe dans un bouillon de poulet pour le faire fondre. Et on fait réduire un peu le tout. Mmh. Et ça fait une sauce épaisse qui est une bombe de goût. C'est grandiose. C'est vraiment excellent.
Et du coup, alors le piment, parce qu'on parle du piment, mais les piments, c'est pas... C'est... On peut pas dire le piment, c'est les piments. Il y a
C'est ça. Alors, il y a une liste de piments qui est longue comme le bras. Tous les ans, il y en a des nouveaux qui sont prêts.
Ouais, il y a des hybrides.
Parce qu'on fait des croisements de boutures de l'un vers l'autre. Parce que bah, l'avantage des plantes, c'est qu'on croise des pieds ensemble et puis on tient un nouveau truc. Et le dernier, par exemple, qui a été testé, il n'a pas encore de note de puissance.
Ça aussi, tu
vas y revenir après. Il s'appelle le Pepper X. Voilà. C'est l'un des derniers hybrides, on va dire, de piment qui a été créé. Il y a des mecs un peu foufou, voire même complètement tapés, qui en créent tous les ans des nouveaux en se disant « Bon, eh bien, si j'étais vraiment complètement débile et que je faisais un truc qui était absolument immangeable. »
Oui, il y a des défis, après, on est
c'est
sûr.
C'est ça. Et à côté, par contre, il y en a certains qui font « Bah tiens, celui-là, il a un goût de, je sais pas, d'agrumes et de caramel. Et si je le croisais avec un qui avait en plus un goût de... d'épices vertes, côté très frais, très verdure. Et puis tiens, voyons voir ce que ça donne. Des fois, ça donne des trucs qui sont bien. Puis des fois, ça donne de la merde. Et puis, ils arrêtent et puis ils retentent une autre version. Là, le Pepper X, par exemple, c'est la deuxième version qu'ils font. Parce qu'ils essayent de stabiliser les arômes et que ce soit quelque chose de plus intéressant gustativement parlant. En plus de le côté piquant. Parce qu'il n'y a pas que le côté piquant du piment qui est intéressant, mais il y a aussi le goût que cela donne. Et donc, les piments, je disais, il n'a pas encore été noté, puisque les piments sont classés sur une échelle qui est appelée l'échelle de Scoville, qui a été inventée par un monsieur qui s'appelle Wilbur Scoville.
Comme son nom l'a dit.
Donc, comme quoi, c'est vraiment un mec qui l'a créé. Hein. Et le principe de cette échelle, c'est donc de noter les piments par force. Donc, du moins fort au plus fort. Le moins fort, aujourd'hui, dans la référence des familles des piments, c'est le poivron, puisque le poivron est un piment.
Et oui.
C'est la même variété, en fait, qu'un piment, type le piment de Cayenne, etc. Et donc, cette échelle de Scoville correspond au nombre de fois que l'on doit diluer le piment dans une cuillère à café d'un mélange eau et sucre.
C'est beaucoup trop mathématique pour moi.
C'est très pointilleux, parce que, en fait, le sucre, en fait, l'eau va éteindre un petit peu, puis le sucre va casser. Le côté piquant de tout ça. Et donc, par exemple, le piment qui est le plus souvent représenté, en fait, dans cette échelle, l'échelle de Scoville, c'est le jalapeño, qui est un piment mexicain vert, qui est, pour le coup, parmi les piments les plus connus, puisqu'on va avoir beaucoup des chips au jalapeño, des mayonnaises au jalapeño, des sauces piquantes tabasco, la tabasco verte, par exemple, est un tabasco au jalapeño. Et donc le jalapeño, qui est un petit peu le piment référent, parce que le plus mangé, il a une unité de Scoville qui est variable, parce que tous les piments, en fait, d'entre un pied et un autre, ne vont pas avoir exactement le même comportement. Donc il donne toujours des fourchettes, et le jalapeño a une échelle qui va entre 2500 et 8000 Scoville.
Donc
il faudrait le diluer 8000 fois dans une cuillère à café d'eau et de sucre pour pouvoir le tuer complètement.
Calcul Mathilde.
Non. Mais alors le piment, comment c'est pas, il n'est pas vert au début et puis il devient rouge.
Alors, en faisant vieillir, il peut devenir rouge, mais tous les piments ne vont pas nécessairement devenir rouges en mûrissant un peu plus.
En fait, moi, je sais que la ferme où je prends mes légumes, où je fais les cueillir, il y a les poivrons et juste à côté, on a les piments. Mais alors là, c'est pas marqué, c'est marqué piment. Et quand je les prends, je les prends en vert.
Et puis, bah, ils finissent petit à petit.
Oui, tout à fait.
Ils finissent en super fin.
Oui, oui, mais ça c'est intéressant parce que, bah, par exemple, les piments de Cayenne commencent vert et finissent rouge.
Est-ce que ça influe sur la puissance?
Alors, ça influe sur la puissance, ça influe sur le goût aussi que ça va donner.
Oui.
Ça va, parce qu'en fait, quand il est vert, il est plutôt doux, tendre et un peu piquant, mais ça va pas non plus être le feu dans la bouche. Alors que quand on va être sur l'aspect rouge, on va être plus sur le côté un peu plus corsé, mais à côté aussi beaucoup plus aromatique. C'est toujours l'aspect intéressant parce que si c'est le piquant,
oui, malheureusement... Et c'est ça, pour comparer avec d'autres piments, par exemple, moi je pense j'en ai à la maison, donc forcément au piment d'Espelette, est-ce que tu as pour situer l'échelle
piment d'Espelette, il est assez doux.
Ouais, mais c'est ça. Le piment d'Espelette en général, je l'ai trouvé.
Ouais.
Il est entre 500 et 4000.
D'accord, donc beaucoup moins...
Beaucoup moins fort.
Beaucoup moins puissant.
Cependant, si on prend un grand classique des piments que tout le monde connaît, qui est le piment de Cayenne,
oui,
qui sert par exemple à faire le tabasco,
ouais,
et ben, le piment de Cayenne, il est entre 30 000 et 50 000.
D'accord.
Voilà. Donc, c'est des échelles qui sont très variables. Le piment le plus fort que, on va dire, le commun des mortels peut manger, le habanero, qui lui, par exemple, est un piment qui est très intéressant quand on fait une sauce, par exemple, avec de la mangue ou des oranges ou de l'ananas. Ça, c'est la prochaine sauce que j'envisage de faire. L'habanero, lui, il est entre 100 000 et 350 000.
D'accord.
Donc et là, on commence à être beaucoup plus fort. Quoi.
Dans les... Pas forcément comestibles, hein, mais qu'est-ce qui a été enregistré dans l'échelle de Scoville qui est le plus fort?
Alors là, j'ai fait défiler du coup ma liste, quasiment jusqu'au bout. Dans les très connus, il y a le Carolina Reaper,
ouais,
qui est un des piments qui a été pendant très longtemps la référence des piments les plus forts qui existent. Il est entre 1 400 000 et 2 200 000.
Qui s'en mange ça? Est-ce que, enfin, alors, on tombe malade?
Techniquement, oui, ça peut se manger, mais après, c'est par exemple la habanero, pour faire un litre de sauce, tu as utilisé un piment pour un litre
c'est
de sauce.
C'est la quantité proportionnellement au reste des ingrédients.
Par contre, il y a des petits rigolos qui font « Oh, un piment, on va le manger !»
Il y a des concours.
Il y a des concours de ça. Oui. Alors, pas avec Carolina, parce que c'est immangeable et c'est vraiment absurde, mais en général, c'est fait avec le ghost pepper. Le ghost pepper qui fait partie quand même des piments très très forts, puisqu'il varie entre 855 000 et 1 million. Donc c'est déjà très ridicule. Et pour donner un petit point de repère, vous voyez les bouteilles de spray qu'ils ont...
Oui, les sprays au poivre.
En fait, c'est pas du poivre, c'est de la capsaïcine, qui est la molécule qui fait que ça pique dans un piment.
D'accord.
Et bien en fait, c'est entre 15 millions et 16 millions. Donc techniquement, c'est comparable à un piment.
Oui.
C'est au-dessus des piments, bien entendu, mais on se doute que c'est dangereux si on en mettait dans la bouche, quoi.
Oui, dans les yeux.
Bah dans les yeux, c'est encore pire.
Alors moi, je pense à une petite que j'ai vue faire à un anniversaire. Il y avait des piments décoratifs en forme de jolis petits poivrons.
Ah, je vois.
Et voilà, tout le monde voit le plantain. Donc la petite arrive, croque dedans.
Oh, c'est mignon.
Et alors comment on fait quand on s'arrache la tête avec un piment pour faire passer ce côté piquant? Quelle est la meilleure astuce?
Alors j'ai vu une vidéo qui était vachement bien. J'essaierai de prochainement de le mettre sur mon compte Twitter pour faire diffuser ça à tout le monde. Hein. Le truc le plus courant que tout le monde se dit, c'est faut pas boire d'eau. Et ça, c'est la vérité
absolue.
Ne jamais boire d'eau quand on mange un piment qui est trop fort.
Ça relève encore plus après.
Et puis en plus, le problème, c'est que la capsaïcine, c'est un peu gras. Et du gras sur de l'eau, ça reste au-dessus et ça s'en va pas. Et donc, on étale. Donc, c'est pour ça que c'est pire. Il y a la rumeur de la mie de pain.
Oui.
La mie de pain ne fait rien.
Grave.
C'est une illusion.
Voilà.
Un des trucs les plus efficaces qui existent que tout le monde a chez soi, c'est du lait.
Ah.
Du lait. Et mais l'avantage, c'est que n'importe quel lait, que ce soit du lait de vache ou du lait végétal.
Du lait de coco.
Voilà, donc tout ce qui est les gens qui boivent, par exemple, comme moi, du lait d'avoine ou du lait d'amande ou du lait de vache ou du lait de chèvre, enfin, un lait, puisque c'est gras et c'est liquide, ça permet en fait de voir le côté rafraîchissant en éteint l'incendie et à côté, ça permet aussi d'avoir cet aspect gras qui aide à emporter la graisse de la capsaïcine avec.
Alors, le gingembre.
Ouais, c'est pas mal aussi.
Le concombre.
Oui, parce que c'est flotteux.
Et les radis, type radis noirs, ouais. les ces choses comme ça.
Éviter tout ce qui est acide, parce que ça aggrave. Donc le vinaigre, le jus de citron, les trucs comme ça, les jus d'orange, en se disant je vais boire un jus d'orange, ça va être mieux.
Oui, non. Du lait.
Sur la sensation à l'instant T, on va peut-être se dire oh du frais c'est bien, et là l'acidité fait que c'est encore pire.
C'est vrai que moi j'avais goûté une sauce justement pimentée avec du piment vert. Je ne sais pas quel piment c'était exactement. Et justement avec du citron, c'était vraiment des morceaux de citron, ouais. Et puis le jus pressé de citron. Délicieux. Enfin,
oui,
moi,
alors, par contre l'acidité avec le piment ça va très bien ensemble.
Je ne peux pas avoir un piment trop fort.
Non. En fait, par exemple, le tabasco vert qui est au jalapeño, c'est un des tabascos les plus vinaigrés. Parce que le côté vinaigre va très bien avec ce piment-là, que ça donne un goût qui est sympathique. Donc, effectivement, l'acidité avec le piment va très bien, mais pas pour éteindre un incendie. C'est la dernière chose. Alors, le truc aussi qui est parfait pour éteindre un incendie dans sa bouche, c'est une glace. Puisqu'en fait, on va avoir le côté du lait, donc le gras et le lait. Et puis, bah, on a le froid, instantanément, qui apaise la sensation de brûlure.
Oui, parce qu'il n'y a pas de brûlure réelle, mais il y a une sacrée sensation.
Alors, il peut y avoir une brûlure réelle avec les piments qui sont sur la fin de la liste.
D'accord.
C'est fou. C'est le piment sur la fin de la liste. Quelqu'un qui, juste pour s'amuser, en croque un et il est absolument insensibilisé au piment, qu'est-ce qu'il risque ? Est-ce qu'il peut vraiment avoir des gros problèmes ?
Bah, en fait, surtout ce qu'il va avoir, c'est qu'il va être très très mal sur le coup. Il va y avoir certainement des nausées, voire la suite logique de la nausée. Parce que bah, forcément, que le corps, quand il se dit ça, c'est pas normal, il faut que ça sorte, bah, il va essayer de le chasser. Il y a certaines personnes qui vont avoir des réactions très extrêmes du genre faire de l'asthme et ne plus pouvoir respirer.
Ah oui, quand même.
Ah oui, non mais faut pas plaisanter en fait, parce que le piment c'est très bon, c'est très parfumé, ça donne énormément d'intérêt à un plat que vous mangez. Cependant, il faut l'utiliser intelligemment et les piments très forts comme ça, il faut les utiliser avec précaution.
Le bon dosage.
Ça, tout est une question de dosage. Et quand on manipule un piment,
oui.
On met des gants.
On met des gants parce que sinon, moi qui écrase des petits piments. Oui.
Et après, on se frotte le visage.
Je me lève les mains, puis après, je vais bien me frotter l'œil comme ça.
Et voilà.
Ça fait systématiquement, et à chaque fois, je me dis que je suis un âne. Mais à chaque fois,
ça me rappelle quand j'étais petite et que j'avais quelque chose dans l'œil, un grain de sable, une poussière.
On n'étale pas.
Ma nounou, donc c'était en Côte d'Ivoire, ma nounou était très friande de piments. Elle me soufflait dans l'œil pour chasser la poussière. C'est bon, tu pleures, ça va sortir. Oui, je pleure. Plein de piments.
Oui, non, mais c'est ça.
Alors moi j'ai un truc aussi pour se rafraîchir le palais.
Oui.
C'est ce que Stéphanie nous a préparé.
Ah oui.
Pour ce soir. Et là on va rentrer en phase
d'enchaînement.
Dégustation. Et ça rentre très bien puisque dedans j'ai mis du piment.
Le piment c'est un ingrédient magique.
Donc là on a pris juste un tout petit bas hein, ici. En vrai on en a bien quelque chose comme 5 litres dans le frigo. Voilà.
Vas-y, explique-nous. On est nombreux. Donc voilà, donc c'est un petit gazpacho tout simple. Moi, je ne suis pas du tout. Je ne suis pas les recettes. Je me fais au gré des ingrédients que j'ai trouvés.
Les vrais cuisiniers font ça.
Voilà, c'est ça. Ce que je fais, par contre, je choisis toujours des très bons produits. Parce que je trouve que quand c'est
très bon. Mais en plus, un bon produit, des fois, ça se suffit à lui-même. Par exemple, Violaine nous a ramené des tomates cerises du jardin. Enfin, c'est.
Clairement,
il y a du goût.
Ça ne tient pas besoin. Il y a des produits comme ça, les tomates, si on les prend, qu'elles ont été importées, qu'elles ont mûri dans un sac ou dans un cajot, voilà. Ça n'a pas de goût.
Donc, moi, j'appelle ça des calories vides.
Voilà. Donc,
des calories sans aucun intérêt.
Voilà. Donc, ça n'a pas intérêt à manger. Donc, je ne prends que des produits de la ferme quand je l'ai été les cueillir ce matin pour faire le gazpacho.
Qu'est-ce que tu as mis dedans, celui-ci? Alors,
dans celui-ci, j'ai des tomates, il y a des concombres, des poivrons et du piment, de l'ail, des oignons, du basilic que j'ai pris. Voilà.
L'huile d'olive.
Ici, j'ai un peu d'huile. Il y a de l'huile. Pas de l'huile d'olive. Moi, je fais au gré. Alors là, j'avais plus beaucoup d'autres huiles, mais j'ai mis de l'huile d'olive, j'ai mis de l'huile de noisette, l'huile de voilà, de l'huile végétale autrement. Comme ça, ça permet d'avoir.
Je n'ai pas attendu, hein. J'ai attaqué, moi.
C'est délicieux. Allez, un peu de sel. Voilà.
Musica, tu veux goûter le gazpacho? Péremptoire, tu veux goûter le gazpacho?
Alors, normalement, dans un gazpacho, on met du pain.
Oui, parce qu'il a quand même une texture.
Voilà. Alors, t'es pas mis du pain, on peut mettre du pain, on peut mettre du pain de mie. Moi, je sais pas si vous êtes comme moi, du pain, j'en ai souvent, qui reste, qui sèche, on sait pas quoi en faire. Moi, je mixe tout le temps, ça me fait de la chapelure. Et notamment dans le gazpacho, et ben plutôt que de moudre du pain frais, je prends ma chapelure, faite maison.
On peut aussi, je rebondis, pour utiliser le pain qui... Le pain qui sèche, le couper, faire un petit mélange huile d'olive, persil, ail, et on fait des petits croûtons au four et on les met dans le gazpacho.
Et on les met dans le gazpacho, c'est ça qui manque, c'est ce que j'avais dit. Il manque le petit pain grillé avec monté à l'ail. Voilà, j'ai mis pas mal d'ail.
Il est vraiment très très bon.
Il est extrêmement parfumé.
L'ail...
Alors, c'est pas la l'ail rose.
C'est Azerta qui nous a ramené ça, là.
C'est l'ail violet que je mets.
Ouais. Il est rose de l'eau très
bon. Voilà. Donc, enfin, c'est délicieux.
C'est quasiment la texture d'une purée. Vraiment.
Donc là, c'est vrai que j'ai pas. Comme j'ai fait,
voilà, elle m'a signalé que le
bana était mix, ok.
Le bana est malade.
Mais comme il est simple, je l'ai fait pas mal, donc j'ai mixé un peu tous mes ingrédients séparément et après j'ai tout remis ensemble, tout mélangé et j'ai terminé avec l'huile d'olive pour essayer de la faire monter.
Tes tomates, elles sont pelées ou tu les mets
Je ne pèle rien.
C'est tellement mixé.
L'oignon et l'ail.
Le concombre, même.
Le concombre, j'ai laissé. Alors, c'est pour ça qu'il est un petit peu plus vert. D'habitude, le gazpacho, c'est quand même bien rouge. Alors, ça va dépendre déjà si vous mettez des poivrons rouges, des poivrons verts. Là, à la ferme, en fait, ils tiennent pas si on les laisse trop longtemps. Donc, quand tu vas dans voilà. Moi, je les prends verts parce que dès qu'ils commencent à rougir, ils commencent à courir en même temps. Donc, je les ramasse verts. Si j'ai le temps, je les laisse rougir chez moi. Et après, comme ça, j'ai des poivrons rouges, je les ai toutes les couleurs. Mais là, comme je les ai fait les cueillir ce matin, donc ils étaient vraiment verts. Et donc, piment, j'ai mis du piment. Entre vert et rouge, j'ai pris un mix pour pas qu'il soit trop fort. Parce que tout le monde n'aime pas le piment, tout le monde ne supporte pas. Donc j'ai mis un peu. Voilà.
Et tu as laissé ton compte la peau, ton concombre, qui était un concombre blanc, tout ça. Donc du coup, on peut laisser toute cette. Toute cette pleine de vitamines.
Là, moi j'ai fait une focaccia. Donc c'est une espèce de pain italien. Ah, c'est le mélange des genres, hein. Gazpacho espagnol,
focaccia italienne,
c'est la Méditerranée, mais voyez, voilà. Pour un petit bout de focaccia, et manger son gazpacho, je pense que ce sera sympa.
Ça va être sympa.
Et donc, du coup, pour la viande, là, Mathilde, je pense que tu veux nous préparer un petit truc, hein. C'est l'instant cuisine en direct, voilà. Expérimentation culinaire.
L'instant sans compter.
Mathilde, elle va nous faire une petite recette. Vas-y, explique-nous.
Alors, c'est une sauce salade à l'œuf dur. C'est une recette de mon père, qu'il a probablement inventée, parce que mon père adorait les salades qu'il appelait salade bouchère. Donc, c'était la viande du navarin d'agneau d'il y a 3 jours. Parce qu'il a dit, il faisait 3 jours, le navarin, avec des pommes de terre. Et principalement, la viande pomme de terre et la salade, et la sauce salade, avec donc œuf dur, huile d'olive, vinaigre balsamique, sel, poivre et soupette. Voilà.
Juste ton navarin, il était cuit en fait.
Oui.
D'accord.
On le mangeait en froid, en salade.
Alors, je ne pense pas qu'il l'a inventé parce que j'en ai déjà mangé. Bon, chez la grand-mère de mon cher étendre qui a été aubergiste. Donc, je pense que c'est une vieille recette de sauce salade.
C'est une vieille.
Elle en fait régulièrement. Oui. Peut-être, ouais. Elle en fait
tant. Tu nous parlais hier soir.
C'est ça.
Qui fait manger pour 150.
Ça, quand on est 3. Tout à fait.
Elle est comme moi, elle a un peu de mal avec les calculs.
Je vais faire un peu plus, je vais doser.
un instant.
Non, bah, du coup, c'est vrai que mon papa a été dans la marine marchande et il s'est retrouvé cuisinier complètement par hasard parce que le cuisinier était tellement saoul du matin au soir qu'il avait fait.
C'est ennui.
Il avait été tellement malade qu'il avait fallu le laisser au port. Et le Bosco, donc le chef, avait dit que
ce serait. Le Bosco, c'est le.
C'est le chef, le Bosco.
Sur dans la bateau. Marine, en bateau. Oui. Ah, d'accord, je ne connaissais pas ça.
Et avait dit à mon père que comme c'était lui qui buvait le moins et qui était le plus souvent sobre, on va dire, depuis plusieurs heures d'affilée, que ce serait lui le cuisinier. Et donc il fallait faire avec.
Il vaut mieux quelqu'un sur qui on peut compter pour faire ce genre d'activité.
En fait, il a dû improviser la cuisine.
Donc il s'est retrouvé là en cuisine, entouré de ce que tu as sur des bateaux, donc des conserves, des produits qui se gardent longtemps. Et donc du coup il a bon, il avait ensuite plus tard appris à aimer ça, donc j'allais dire télécharger, d'où Jésus. Des livres de recettes. Et donc, il les faisait un peu à sa manière. Hein. C'est comme toi, Stéphanie. Pas de livre de recettes. Enfin, pas vraiment de recettes suivies à la lettre. Donc là, je vais faire quelque chose qu'il m'a appris lui, mais qui est peut-être.
Une réinterprétation.
Voilà, complètement. Peut-être une hérésie pour certains, mais je fais comme mon papa m'a montré. De l'huile.
De l'huile.
Sur l'œuf. Complètement.
De l'huile donc d'olive. On recouvre à bah, l'huile d'olive.
De boîte. Moi, il faisait à l'huile d'olive, papa. Donc après, je suis. Par contre, avec un petit peu d'huile de noix ou de noisette, ça ne doit pas être mauvais. Ensuite, du vinaigre balsamique. J'en fais à l'œil. Normalement, j'en fais une petite quantité. C'est vrai que là, là je dois faire pour. Oui,
tu voilà. Fais avec une fourchette ou à la cuillère?
Moi, je fais comme ça.
Ouais. Et normalement, tu fais une émulsion comme ça avec ouais. Ton œuf.
Mais normalement, t'es censé garder les morceaux. J'ai peut-être pas coupé.
D'accord.
C'est gros, en effet.
Ah, quand petit, tu pardon. Gardes les morceaux.
Oui. Mais oui, parce que si tu veux, normalement, comme tu as juste tes pommes de terre et ta viande, tu as donc l'œuf qui arrive avec la sauce, mais qui est complètement imbibé de sauce. D'accord. D'ailleurs, quand j'étais étudiante, je faisais des sauces huile d'olive, vinaigre et kiri.
Ah, ok.
Moi, bah, j'adorais ça. Voilà.
Mais je n'aime pas le kiri.
Le, voilà, rien que le mot, j'ai dit le
kiri, c'est des fromages.
La vache kiri, je n'aime pas ça.
Voilà, c'est un goût mauvais ou le style fromage frais, je préférerais beaucoup au kiri. Le kiri, c'est les restes de fromage en fait qui sont.
Alors c'est plutôt la vache kiri. Parce que le kiri, ça se rapproche un peu plus du Saint-Mauray au niveau texture, je trouve. Et la vache kiri, ça fait un peu gruyère fondue. Enfin,
qu'est-ce que tu veux dire? Le kiri, je trouve que c'est.
C'est un côté un peu régressif.
Oui.
Le ciboulette aussi. Ciboulette, ciboulette complète.
Vous êtes des ciboulettes fraîches. Six petites boulettes. J'ai cherché de la ciboulette fraîche.
Avec on en a cherché, on en a retrouvé.
Non, mais bah, en fait, j'en ai dans le jardin. Mais.
Parlons de ça maintenant.
Parlons de ça. Nous allons faire. Nous allons remplacer le mot par sushi. Voilà. Le chien a fait un sushi sur le
sur
thym.
La ciboulette.
Au milieu des herbes. Non, des herbes aromatiques. Donc on s'est dit, on va peut-être pas les utiliser dans la cuisine.
Dommage, j'en avais. Si j'avais su, j'aurais pu t'en rappeler.
Ah, ouais, mais c'est pas grave. Je vais peut-être broyer un peu plus. Je vais broyer un peu plus. Violaine, tu peux me passer une fourchette dans le grand tiroir du milieu. Il n'y a rien de plus bête que ce que je fais.
Non, mais moi je ne connais pas du tout.
Et j'adore, c'est un peu une recette comme ça à l'ancienne.
Oui, mais ça je pense que pour le coup c'est vraiment une recette. Ouais. Moi je l'associe à ça. Parce que c'est.
Alors, la grand-mère de mon chéri. À quoi ça mais... ressemble la recette que toi tu
fais ben, c'est à peu près effectivement peut-être un petit peu plus petit le morceau. Mais je pense qu'elle utilise du vinaigre, plus du vinaigre de vin parce que je peux super. Mais ça ressemble vraiment à ça. Vinaigrette avec des petits morceaux d'œufs durs.
C'est vrai que le vinaigre balsamique dans la cuisine française c'est un truc. C'est récent. C'est un aliment italien. Moi, je dirais que ça fait une trentaine d'années qu'on ne le voit pas dans des recettes un peu anciennes.
Oui. Ah, c'est vrai. Je pense que mon père a dû adapter.
Mon père a dû adapter par rapport à ce que lui aimait. Parce que c'était
un peu. C'est ça aussi, c'est des réinterprétations.
Il aimait bien mentir. Alors, il m'avait dit que c'était lui qui avait inventé
douter.
Ah, c'était pour
ah, mais vous. Mais c'est normal. Bien sûr. Enfin, mais j'aurais dû me douter parce que souvent il enchaînait avec la grande époque où il était champion de cinéma.
Mais je par exemple. Peut-être qu'il l'a inventé, ça n'empêche
mais
pas.
Mais regarde,
oui, parce qu'elle, on la connaît
c'est,
par ailleurs.
C'est un souvenir et quand tu
fais ça, tu penses à quoi
c'est parce que c'est ça aussi. Les recettes qu'on fait, elles nous évoquent des choses. Moi, le souvenir d'enfance, c'est la tarte aux pommes de ma grand-mère. Moi, je vois une tarte aux pommes, je pense à ma grand-mère. Mmh. Et y a, c'est des souvenirs comme ça. Je la vois mettre le sucre sur la tarte et on piochait le sucre qui avait cuit un petit peu cristallisé, caramélisé entre les morceaux de pommes et qu'on piquait comme ça.
Ouais.
C'est, bah oui, cette sauce-là,
c'est pas ma qui l'a inventée et puis c'est tout.
C'est ça. Voilà. C'est sa version.
Exactement. Est-ce que ça vous paraît
ah, moi, j'ai ma cerise. Et alors j'ai un ah.
Ah
mais oui.
Tomate cerise du jardin, c'est ça.
On va tremper
une petite tomate pour goûter la sauce.
Hop. Ah, alors les œufs n'avaient regarde. Pas beaucoup de jaune. Donc c'est vrai.
C'est
les tomates cerises du jardin de Violaine et Hirslow, quand même. Rendons leur hommage. Elles sont magnifiques. Alors les jaunes là.
À ah, votre retour de
voilà.
Bonne tomate.
Les tomates de la elles ont un parfum incroyable. Puis, moi, il y a
ça, c'est les beurres de crinée en vert.
Oui,
c'est mes préférées. Je ne sais pas si elles sont. C'est peut-être pas les plus blanches, mais bon. Tenter, tu verras bien.
Oui, c'est vrai que non, moi, c'est un peu. Les tomates, il y a aussi un truc que j'adore. C'est
donnez-moi votre avis.
Les mêmes vertes, elles sont bonnes.
Mais quand tu les ramasses, tu as les doigts qui sentent la tomate après. Merci.
Pas goûté donc je ne sais pas. Alors, qu'est-ce qui manque ? Pour moi, il y a juste peut-être un peu trop de balsamique.
Ouais.
Est-ce que je rajoute un petit peu d'huile peut-être ?
Et je trouve que c'est dommage.
Mais moi, j'aime bien ça. Ça me choque pas, mais
je peux rajouter. Hein. Et je trouve que mes œufs.
Oui, mon huile.
Je trouve que les œufs n'avaient pas assez de jaune. C'est vrai ouais. Que je suis habituée
oui,
à avoir
une
texture
en fait du jaune.
Il te reste le blanc d'œuf pour avoir la texture des morceaux et le jaune qui doit donner l'onctuosité.
C'est ça qui s'écrase. Je rallonge un tout petit peu avec.
Mais oui, c'est vrai.
Parce que c'est plus le jaune d'œuf qui manque.
Mais c'est dommage. Ça.
Mais non, mais. C'est
bon. Donc c'est vrai qu'idéalement, avec des œufs de tout du jardin, ce serait.
Le balsamique, je ne suis pas une très grande fan. J'aime beaucoup.
Moi, j'aime bien.
Ça,
quand je mets sur le balsamique, tomate par exemple,
la tomate, c'est lui.
En marinade, ça peut être.
Ah oui, en marinade. En marinade, en dessert aussi.
En dessert aussi.
Mais, oui. J'avais goûté une glace au balsamique, j'avais trouvé ça très bon. J'aime beaucoup. Bon, bah voilà, pour les curieux.
Super. Et sinon, au niveau de la régie, on reste quoi là?
On est à 51.
Et donc, on termine dans 10 minutes?
Moins de 10 minutes.
Moins de 10 minutes. Hein.
Comme vous voulez.
Ouais. Et alors moi j'ai des questions à poser à Violaine.
Je t'écoute.
Parce que Violaine pour le dessert nous a fait le panna cotta.
Oui.
Et panna cotta, tu es quoi ? T'es team gélatine ou team agaragna ?
Alors moi je suis team gélatine mais plus par défaut parce que je n'ai pas appris à utiliser l'agar-agar.
Tu sais utiliser l'agar-agar toi ?
Je l'utilise un petit peu, notamment pour... oui.
Donc moi je team gélatine. Parce que c'est vraiment, j'ai toujours foiré tout ce que j'ai essayé de faire avec de la agar-agar.
De l'agar-agar. Ah ben.
La gélatine, je peux pas dire toujours. La gélatine, ça marche toujours. Et puis en plus, tu peux l'utiliser à froid. T'as pas de. L'agar-agar, il faut le chauffer.
Oui. Mais la gélatine, il faut quand même qu'elle soit dans une préparation un peu chaude pour pouvoir la
fondre. Pour la fondre, ouais.
Mais il faut pas que ce soit trop bouilli quand même, parce que sinon tu peux faire. Tu modifies les molécules et du coup ça gélifie plus très bien. Mais après, oui, c'est vrai,
alors,
c'est
facile.
Je suis désolée, excuse-moi.
Ah bah voilà,
Qu'est-ce que je fais
Alors, déjà, explique-nous ce que c'est qu'une panna cotta.
Alors, une panna cotta, c'est une recette italienne. Alors, moi, j'ai fait une panna cotta à la vanille, donc qu'on fait avec de la crème fraîche liquide. Donc, moi, j'ai fait. Alors, dans l'idéal, on fait macérer la vanille dans la crème fraîche liquide la veille, parce que forcément, la vanille a meilleur goût. Mais là, moi, je l'ai pas fait, je l'ai fait un petit peu avant. Je l'ai fait macérer. On fait. J'ai mis. Alors là, pour environ 600 ml de crème fraîche liquide, j'ai mis 50 g de sucre. J'aime pas quand elle est trop sucrée, donc pas trop sucrée.
On est bien d'accord.
J'ai mis une gousse de vanille. Si j'en avais eu deux, j'en aurais mis deux, mais je n'en avais qu'une sous la main. Et puis, donc j'ai fait bouillir ça.
J'ai ajouté, une fois que j'ai ouvert le feu, j'ai attendu un petit peu que ça refroidisse, j'ai ajouté 3 feuilles de gélatine.
D'accord.
Et j'ai mis ça dans mes petits pots. Et j'ai laissé au frigo pendant quelques heures
le temps que ça prenne.
Et après, je rajoute par-dessus un petit coulis de framboise. Ah. Et comme ça, c'est bon.
T'as moi, j'adore. Framboise dans ton jardin ?
Non, là pour le coup, c'est pas du coulis maison. Ouais. J'avais pas. Mes framboisiers sont en début de pousse, là, il n'y a pas encore de
framboise. Ah oui, c'est vrai. C'est vrai. Alors, pour une Bretonne comme moi, le petit coulis de caramel dessus.
Ah là là, c'est comme ça, la maman, elle fait la
caramel. Moi, j'aime pas.
Et pourtant, Dieu sait qu'elle n'est pas bretonne.
Alors, bien sûr, je suis très très sucrée et je peux manger du sucré en quantité. Mais sur le panna-cotta, je trouve, moi je préfère la framboise parce que l'acidulé qui vient trancher avec le côté douceur. Mais voilà, c'est pourtant, je peux manger du caramel au beurre salé.
Ah, moi sur la tête
cuillère, sans problème.
Comme ça, avec les doigts, le caramel au beurre salé.
Donc je vais en chercher les
courants. Ah oui, montre-nous.
Non,
on va pas la goûter, on va la garder pour ce soir là par contre.
En parlant de piment, il y a un petit producteur
et voilà. Qu'est-ce que ça donne donc j'en ai fait 10 comme ça avec ma quantité là.
T'as déjà goûté ça?
Mais j'aime le panna-cotta. Ah,
et maison, c'est vraiment. Ça n'a rien à voir avec ce qu'on peut acheter.
C'est vrai que jusque-là, j'ai goûté que de la panna-cotta industrielle.
Bah, tu
es bien, parce que voilà, ça va être une des premières.
C'est l'occasion.
Mais, ouais. Petite question, la vanille Madagascar.
Oui, c'est de la vanille bio de Madagascar.
Alors, ça me fait penser à la condition, ça me fait parler. Je ne sais pas si vous connaissez ce breton qui s'appelle Olivier Rollinger, qui est un de mes grands héros. C'est un cuisinier de Cancale qui est spécialisé dans les épices. Donc il y a plusieurs boutiques d'épices. On parlait justement de toutes les épices, les piments, etc. Et alors lui, il a. Dans ces boutiques, il y en a 3 ou 4 en France, notamment une à Paris, une à Saint-Malo, une à Cancale.
Celle que tu m'as amenée, c'est un rêve.
C'est ça. Olivier Rollinger.
C'est le fils de lui.
Voilà. Et lui, donc, il a des caves à vanille, ces boutiques.
C'est magnifique.
Oui, là, mais une vingtaine de variétés différentes de vanille qui ont des parfums absolument incroyables. Elles sont des vanilles sous cloche, comme ça, on soulève la cloche et. On respire le parfum de la vanille et d'une vanille à l'autre, on est sur quelque chose de complètement différent.
C'est impressionnant de constater.
Je ne connais pas assez vos vanilles, mais c'est incroyable.
Ne serait-ce qu'en 100 ans, tu te dis ah, mais en fait, ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir parce que la vanille, c'est la vanille, mais en fait, non.
Il y a des vanilles qui se prêtent à des plats salés, des vanilles qui se prêtent à des plats sucrés. On avait mangé une purée de céleri à la vanille. Alors, moi, ça a été une révélation gustative. Ça a été un moment où c'était. Quelque chose, j'avais jamais mangé ça de ma vie. C'est vraiment ces moments où on découvre un goût, on se dit, j'ai jamais mangé ça de ma vie, c'est incroyable. Et donc, il y a un glacier qui travaille
aussi, d'ailleurs.
De l'huile de vanille.
Ah, ça doit être terrible.
Un glacier qui fait des glaces avec ses différents crus de vanille et il fait des dégustations. Ça, on se retrouve avec 3-4 glaces à la vanille différentes. Qui, avec. Non, ça vous fait pas saliver.
Quand on était allé à Paris, on y est allé deux fois.
Dans c'est dans le quartier Sainte-Anne. C'est rue Sainte-Anne, justement. Je vous recommande cette boutique.
Parce qu'il y a du poivre, de la vanille de poivre, des huiles.
Des huiles
que tu goûtes, tu as des. Tu peux goûter l'huile, c'est magnifiquement.
Mais comme tous les produits, il existe plein de nuances.
Et on revient, c'est quand même un bon produit. Ça fait toute la différence. Et... Enfin, en tout cas, nous, on va se retrouver tout à l'heure autour du barbecue, quand même, pour déguster ce que les filles ont préparé pendant que je parlais et pendant que Loli parlait. Moi, vous avez été mes petites abeilles ouvrières de cette heure. En tout cas, c'était bien agréable de parler de manger avec vous. Hein. Et puis après, on va manger. À tout à l'heure!
Bonjour, on est de retour, merci à la cuisine.
Alors, oui, j'étais un peu fort. On les entend toujours dans la cuisine. J'ai envie de dire qu'il y a un bruit dans la cuisine. Non, c'est pas une boutique, soir, ça si, ah, ça y est, c'est bon. La cuisine a été coupée. Ah, je vois que Badik aussi est en train de se poser tranquillement, préparé pour les Podcast Awards.
Bah ouais, le retour du bruit de masse.
Le retour. Bah oui, ils sont
c'est donc l'extérieur, on va dire
oui,
que c'est
bah
le grillon.
Ça va, on va y arriver, c'est bon, merde.
Sinon, vous auriez pas pu aller régler le micro de vos collègues dans la cuisine.
Pour vous, on a tout fait.
On est au taquet.
On est quasi professionnel.
Comme le micro à la voix d'hélium dans la cuisine, là, vous pouviez pas les aider.
Alors, c'était une licence poétique. Ouais, voilà. C'était un style. C'était pour anonymiser les filles.
Il y avait une fuite d'hélium.
Ah oui, mais c'est un four à hélium, c'est ça.
On termine la soirée par une explosion de la maison.
Mais ça va être magnifique, pas avec
parce qu'on n'a pas trouvé les artificiers.
On essaie de trouver des drones.
D'accord.
On essaie de trouver des drones.
On essaie de se connecter aux drones petit à petit. On va y arriver.
Vous avez essayé de mettre une bouteille d'eau glacée dessus ?
On va y arriver. Là, on est parti sur l'idée de le brancher sur un câble Ethernet.
Oula.
D'une longueur à peu près approximative.
Oui, avec un enrouleur, mettre un drone avec un enrouleur.
Ça va être terrible.
Ça doit pouvoir marcher, hein.
Ça devrait. Après, ça dépend le poids du câble. Au bout d'un moment, drone ne peut plus
monter.
Il faut
un gros moulinet, quoi.
C'est ça, ouais, voilà déjà.
Jingle chiant.
On a quand même le proprio qui est là, donc c'est compliqué.
Ah. Du coup, étant donné qu'on a un petit peu d'avance et que on a eu du lobby de la part de l'un de l'équipe qui ne peut pas être là.
19h59.
Vu qu'on n'est pas à la bourre,
On n'a pas ton quart d'heure toulousain. Ouais.
C'est ça. On a juste une petite bande-annonce de 3 minutes à passer et après on passe au Podcast Awards juste le temps que nous on s'installe.
Yes.
Voilà. Donc du coup, Jean-Michel Poff de la régie.
Oui.
Est-ce que tu peux nous balancer le truc et puis qu'est-ce qu'il y a ? Tu nous mets sur.
J'en profite aussi pour couper l'enregistrement et le relancer.
D'accord. Est-ce que tu peux virer pour virer le petit truc
virer
de l'hélium
le texte
parce que... on n'a pas d'hélium.
Qui dit qu'ils savent pas régler un micro ?
Oh, comment ça casse ?
Ensuite. Après, ça avait l'air très bon, hein, ce qu'il faisait. Hein.
Ouais.
Très aigu, mais très bon.
C'est le piment.
Ah bah, on dira ça tout à l'heure.
Nous, on n'a pas les images, mais...
On aura le bon.
On relance l'enregistrement.
Démarrer
voilà.
L'enregistrement à nouveau. Là, on
quoi, vous avez des problèmes techniques ? Vous êtes vraiment des flèches.
Non, non, justement, on prévoit pour ne pas avoir de problèmes techniques ce soir.
Parce que nous, on fait des lives assez souvent, donc du coup, on connaît les bails.
Tu veux dire une fois par an ?
Du coup, on diffuse un spot, c'est ça ?
Un petit spot de 3 minutes. Un petit spot de 3 minutes. Vous avez donc 3 minutes pour faire le bordel sur Twitter pour dire que c'est les Podcast Awards. Et on se retrouve juste après.
Attendez, vous pouvez parler un tout petit peu, Bad Geek, s'il vous plaît ?
Juste pour savoir si on coupe le bon truc, en fait.
Ah oui, effectivement, c'est bon, on vous coupe.
Allez,
là,
on se retrouve dans
3
minutes.
L'équipe de Red Universe est fière de vous présenter sa toute nouvelle série intitulée Force Mentale.
Hôpital psychiatrique dédié au manteau, le lendemain. Les TOAC ouvrent les yeux dans une chambre.
Vous restez verrouillé à mon travail d'analyse. C'est votre droit. Nous poursuivons donc de manière officielle.
Les TOAC ne sentent une présence que d'un moment. Des pensées menaçantes troublèrent soudain sa sérénité. Un flot ininterrompu de pensées inconnues le traversa alors l'esprit, tandis que la bataille psychologique commençait.
Je m'appelle MT.
Rends-moi la liberté.
Force mentale, une série de Red Universe.
La famille Kanksk était suspectée de gérer un trafic d'armes dépassant les frontières du Texas. Il fallait les infiltrer chez eux. Clarence n'était pas tranquille. Quel était donc cet étrange frisson qui la parcourait ? Était-ce de la peur ?
Allez-vous bien ?
S'inquiéta Sir Seldur.
Tout va bien.
Mesdames et messieurs, ici le commandant de police Nestor Rubiano. Je suis en charge de démêler les faits entourant ce terrible accident. Je vous demande toute votre collaboration envers moi et mes collègues. Merci de votre attention.
La vision du cadavre souleva le cœur de Gordonan. Sa chef avait le visage fermé, tandis que Rubiano grimaçait. La posture était à la fois ridicule et terrifiante.
Vous savez, on ignore beaucoup de choses de nos capacités mentales. Spécialement avec un agent hautement entraîné.
Force mentale, une série de Red Universe.
Bonsoir, ici Elosia Mackenzie en direct d'une barricade militaire dans le Loris Sec.
C'est l'heure de la vérité.
Nous avons constaté un nombre important de décès inexpliqués au sein de la faune locale.
Nous allons nous retrouver à terre. Une vidéo courte pause musicale.
Ils vont rentrer ! Bloquez toutes les issues !
Mais bordel !
Elle va te planquer dans le premier bureau. Je m'occupe du reste.
On pense avoir trouvé un chemin à réflexion jusqu'aux navettes.
Je dois me ressaisir.
Ça n'a commencé que depuis 96 heures. Osez me dire que cette saloperie est de votre sort.
Maintenant qu'on a ça en notre possession, on peut aller de l'avant.
Mais quelle contamination.
Force Mentale. Une série de Red Universe.
Retrouvez votre nouvelle série sur forcemental.fr.